Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 8 septembre 2021. Le retour au travail s'est fait dans la douceur hier. Comme disait l'autre, il n'y a pas le feu au lac. Le Nasdaq nous a gratifié d'un nouveau record historique pendant que les intervenants revenaient sur les chiffres de l'emploi de vendredi dernier pour essayer de déterminer si les chiffres étaient vraiment pourris. À la fin, on s'est dit que le variant Delta avait quand même bien fait du mal à l'économie et qu'on avait quand même un peu la trouille. On sait bien qu'il vaut mieux être un trouillon vivant qu'un héros mort, mais tout d'un coup, il y a comme un doute qui nous assaille. À 50 jours d'Halloween, pourrait-on se mettre à faire des cauchemars de crash ? Au-delà des marchés boursiers classiques réservés pour les vieux, hier, l'intérêt du monde merveilleux de la finance était clairement dirigé en direction des crypto-monnaies. Il fallait être aveugle ou perdu sur une île déserte pour rater le sell-off massif dans le secteur. On va dire que ce qui s'est passé n'est pas très clair. Entre problèmes techniques sur les plateformes de trading et hordes de ventre massifs, peut-être même des prises de profit, il n'est pas simple de déterminer ce qui s'est réellement passé, même si chacun y va de sa théorie personnelle. Toujours est-il que le jour où le Bitcoin devenait monnaie de référence au Salvador et les cryptos se sont effondrés avec une harmonie parfaite qui aurait rendu jaloux le chorégraphe d'Holiday on Ice. Je vous passe les chiffres, mais disons que cela va de 5 à 85% de baisse. Il y en a pour tous les goûts. Les principales cryptos se sont posées sur leur moyenne mobile des 50 jours, point d'inflexion qui aura été choisi pour jouer le rebond. Pour ceux qui traitaient avec du levier pour devenir très très riches très très vite, ça s'est rapidement compliqué puisque selon certains chiffres, près de 300 000 comptes de trading ont été liquidés hier. Le bain de sang aura été violent, partiellement expliqué, inexpliqué et les pannes multiples sur les différentes places de trading semblent montrer la limitation temporaire des systèmes face à des volumes monstrueux. On dit qu'un ordre de 44 millions de dollars à la vente sur le Bitcoin aurait tout fait capoter. C'est rassurant de voir qu'avec 44 millions de dollars, ce qui correspond plus ou moins au salaire annuel de Lewis Hamilton, on peut faire capoter tout un système. Mais bon, ceci est une révolution et il faut accepter les conséquences qui vont avec. Et puis, comme le disait le président du Salvador, c'est une opportunité d'acheter sur faiblesse, vu que l'on sait tous que le Bitcoin va à 100 000 dollars pour Noël. En Europe, on finissait la journée dans le rouge alors que l'on aura passé la plupart de la séance à se demander si la croissance allait devenir un problème ou pas et si on n'était pas déjà entré dans la phase descendante post-stimulus, sans compter que le variant Delta est revenu sur le devant de la scène dans les médias financiers qui se sont soudainement souvenus que la pandémie n'était pas vraiment finie, que les taux de vaccination étaient en ralentissement et que Bercy pourrait bien nous sortir le pass sanitaire pour les restos dès cet après-midi. Les marchés du vieux continent étaient mous et peu convaincus et ceci dans une direction comme dans l'autre. Aux USA, on est donc revenu au bureau après un long week-end de 3 jours et on sentait que l'on n'était pas encore à 100%. Les coups de soleil brûlaient encore et le frottement de la chemise sur la peau encore irritée n'était pas des plus motivants. Les indices étaient sans grande direction et mis à part le Nasdaq qui accrochait un nouveau record à son palmarès, il n'y avait pas une activité que l'on aurait pu qualifier de trépidante. On sait que le retour du Labor Day est censé marquer le vrai retour au bureau après les vacances, mais cela pourrait prendre encore du temps avant que l'on soit à full power. Pour le moment, tout le monde se pose des questions sur l'emploi. Est-ce que c'est l'emploi qui stagne ou est-ce que c'est les employés qui boudent et qui prolongent les vacances d'été pour profiter des derniers rayons du soleil ? Hier, un rapport a été publié et il démontre quand même que bien des corps de métier ont de la peine à trouver de la main d'œuvre et que plusieurs secteurs font même appel à des bonus à l'engagement pour attirer le chaland. Les bonus vont de 150 dollars dans la restauration à 100 000 dollars pour un dentiste. Alors que les intervenants se posent des questions sur l'emploi, la croissance et l'avenir des crypto-monnaies, les prédicateurs boursiers se lâchent et profitent de la saison propice à tous les délires pour venir annoncer tour à tour la fin du monde. Il ne se passe pas un jour sans qu'un stratégiste ou un hedge fund manager vienne prédire l'effondrement des bourses pour les plus optimistes, et l'effondrement total du système pour ceux qui parient sur la fin du capitalisme. Après le gérant de Crestcat Capital qui a prévu une chute de 42% d'ici 12 mois, après John Paulson, l'empereur des subprimes, qui annonçait que les cryptos allaient aller à zéro et qu'il fallait charger vos comptes avec de l'or, hier c'était la CIO de Morgan Stanley qui prédisait une chute entre 10 et 15% d'ici la fin de l'année. Ce qui est bien avec les mois de septembre et d'octobre, c'est que tout le monde en profite pour se lâcher et dire n'importe quoi, sachant que s'ils ont tort, on aura tout oublié en octobre, enfin en novembre plutôt, avec le Christmas Rally. Et comme l'investisseur a une mémoire de poisson rouge, on ne leur en tiendra pas rigueur. En revanche, si sur un malentendu, un de ces fabuleux stratèges en investissement et en communication avait raison, par le plus grand des hasards, je peux vous garantir qu'il ou elle pourra s'appuyer sur sa prédiction hasardeuse et se vendre au plus offrant en revendiquant ses qualités de visionnaire. On sait que ce genre de situation touche plus au hasard qu'au talent, mais allez savoir pourquoi, on tombe dans le piège à chaque fois. Toujours est-il que si vous vous sentez une âme de prédicateur boursier, nous sommes actuellement dans une fenêtre d'opportunité assez unique qui vous permet de dire tout et n'importe quoi jusqu'à la fin du mois d'octobre. Alors sentez-vous libre de dire ou de prévoir un truc, c'est maintenant ou jamais. Ce matin en Asie, il se passe pas grand chose non plus, et ce malgré de bons chiffres économiques en Chine. Pour le moment, le Japon est en légère hausse et attend l'élection de son nouveau premier ministre. Et en même temps, après le run du Nikkei et dans la foulée de la démission de Suga, le nouveau calife va devoir en faire des ronds de jambes pour que l'indice ne se dégonfle pas et ne mette pas en application la bonne vieille théorie du sell the news. En Chine et à Hong Kong, on ne fait rien et Xi Jinping ne s'en est pris à personne depuis ce matin. On retiendra l'offre secondaire de NIO qui met pour 2 milliards de dollars de titres sur le marché. Le titre était en baisse de 3,5% sur la nouvelle after close. Pendant ce temps, le pétrole est à 68,42 et l'or repart dans ses vieux travers à 1799. C'est impressionnant de voir que les experts se démènent pour imaginer une rivalité entre l'or et le bitcoin, que l'on nous explique que l'un est une alternative à l'autre et que le jour où le bitcoin se fait dégommer, bah l'or il baisse aussi. Dans les nouvelles du jour, on retiendra qu'Apple a annoncé son California Streaming pour le 14 septembre. Le California Streaming est un événement médiatique organisé par Apple, événement durant lequel il n'y a que très peu de suspense sur le fait que l'on va dévoiler l'iPhone 13. Le titre est au plus haut de tous les temps, et ce malgré le départ de leur responsable de développement sur les voitures autonomes qui part pour aller chez Ford. Ailleurs, les espèces de débiles mentaux qui ont pris le pouvoir à Kaboul ont annoncé leur gouvernement, et je dois dire que s'ils avaient annoncé Kermit la grenouille à la présidence et Peggy la cochonne comme premier ministre, ça aurait été moins ridicule. Puisque dans la liste des gens du gouvernement, ces imbéciles de talibans n'ont rien trouvé de mieux que de mettre des hommes qui sont recherchés par l'ONU pour terrorisme et un ministre de l'Intérieur qui est sur la liste du FBI des 10 people most wanted list. Comme quoi, avec des même avec les casseroles que certains ministres français se traînent, n'est-ce pas, monsieur Darmanin, ils sont encore ridicules face aux talibans qui mettent la barre très très haut. Il va en falloir des voyages offerts pour aller voir des grands prix de Formule 1 pour rivaliser avec la liste des most wanted fugitives du FBI. Autrement, Goldman a baissé ses attentes de PIB pour le reste de l'année. Tesla a pris presque 3% hier parce qu'on s'autorise à penser qu'Elon Musk aurait confirmé l'objectif de $3,000 par action de Katie Wood dans un message à tous les employés. Alors, de deux choses l'une, hein. Soit il est complètement débile et veut délibérément provoquer la SEC, soit il n'en a rien à foutre et il se croit le roi du monde. Je penche quand même pour la seconde hypothèse. Ce soir, GameStop va publier ses chiffres trimestriels. Si vous n'avez pas le temps d'aller à la fête foraine pour monter sur les carousels, acheter un peu de GameStop pourrait vous faire plus ou moins le même effet et vous donner également envie de vomir. En attendant la BCE demain, aujourd'hui, nous aurons les chiffres des JOLTS qui nous donneront amplement de quoi causer sur l'emploi again, mais il y aura aussi le Beige Book et les Non-Farm Payrolls français. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,04%. Le Bitcoin est à 46 700 et l'Ether à 3 400 et des poussières, puisqu'après tout, il n'y a que ça qui est marrant à traiter. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.